VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel du lundi 9 juillet 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. Au Cameroun, des tirs entendus à Boya, la capitale de la région anglophone du sud-ouest. Au Niger, 17 militants du groupe islamiste Boko Haram ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison. Rapprochement entre Addis Abeba et Asmara, l'Éthiopie et l'Érythrée déclarent ne plus être en guerre.
Monsieur Ahmed est venu et il a vu que c'était ridicule de ne pas parler avec l'Érythrée. Ils avaient une longue frontière, avaient des soldats sur la frontière qui coûtaient très cher, il y avait une guerre froide.
À peine signé à Entebbe, l'accord entre belligérants sud-soudanais est rejeté par les rebelles de Riek Machar. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et la Coupe du Monde, le journal de la Coupe du Monde, mais tout d'abord le journal. Au Cameroun, le président Paul Biya vient de fixer la date de l'élection présidentielle au 7 octobre. Au pouvoir depuis plus de 3 décennies, le président Biya n'a toujours pas dit s'il se présentera à sa propre succession ou pas. Par ailleurs, 2 policiers ont trouvé la mort ce matin à Boya, dans le sud-ouest du pays, en zone anglophone, selon les sources sécuritaires. De violents combats ont opposé ce lundi les séparatistes anglophones aux forces de défense et de sécurité. De Yaoundé, les précisions d'Emmanuel Jultap.
Depuis le déclenchement de la crise anglophone, c'est la première fois que de violents combats ont eu lieu dans la ville de Boya. Un responsable d'une organisation humanitaire locale, joint par VOA Afrique, a signalé des affrontements dans les quartiers de Moliko, à Albert Moukont Avenue, plus connu sous l'appellation de Mile 17. C'est à cet endroit qu'un officier et un inspecteur de police ont été froidement abattus par des hommes armés, confirme une source de sécurité. Des hommes armés qui ont envahi la ville de Boya le matin, sèmant un vent de panique générale. Un autre témoin à Boya a rapporté à VOA Afrique avoir vu d'épaisses couches de fumée depuis le lieu dit Bomaka aux premières heures de la matinée. L'armée a repris le contrôle de la ville peu avant 12 heures temps universel et le calme est revenu à Boya, rassure une autorité administrative. Depuis l'extradition des leaders sécessionnistes du Nigeria, la journée de lundi a été décrétée par les séparatistes comme jour ou ville morte en zone anglophone. Un chauffeur de taxi de la localité de Bambui, non loin de Bamenda, dans le nord-ouest, qui a bravé ce mot d'ordre, a vu son véhicule calciné par des jeunes gens, rapporte une autorité administrative du Nord-Ouest. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Le parti de l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba estime qu'il n'y a aucune entrave à sa candidature à la présidentielle prévue le 23 décembre en RDC. Le mouvement de libération du Congo, MLC, tiendra son congrès les 12 et 13 juillet à Kinshasa. Les candidats aux élections seront investis lors de ce congrès, selon Alexis Lenga-Walenga, président du groupe parlementaire du MLC à l'Assemblée nationale. Au Niger, 17 militants de Boko Haram ont été condamnés à des peines de 2 à 7 ans de prison à l'issue d'une semaine de procès à Difa dans le sud-est du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Sur les 42 prévenus, 17 ont été coupés de 2 à 7 ans de prison, 21 ont été relaxés. Le jugement des 4 autres a été renvoyé à la mi-octobre, d'après Shaibou Samna, procureur au tribunal de grande instance de Niamey. Les concernés sont essentiellement des Nigériens, des Maliens et des Nigérians. Ils ont été poursuivis pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Certains ont été arrêtés lors de combats ou de contrôles en vertu de l'état d'urgence imposé dans la région de Difa, frontalière du Nigeria. Les premiers procès de membres présumés de Boko Haram se sont tenus en mars 2017 à Niamey. Plusieurs d'entre eux ont été condamnés à des peines de 3 à 9 ans de prison et d'autres relaxés faute de preuves. Cette année, les procès ont été délocalisés à Difa, théâtre depuis 2015, de nombreuses attaques de Boko Haram. Depuis décembre 2016, 200 combattants nigériens de ce groupe djihadiste se sont rendus aux autorités. Ils sont internés dans un camp d'accueil où ils doivent suivre un programme de déradicalisation, puis bénéficier d'une amnistie avant de retrouver leurs proches.
L'armée malienne est intervenue contre une milice de chasseurs traditionnels Dogon dans le centre du pays. Elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos. Et dans un communiqué, ce groupe baptisé Dana Amasagou menace de s'opposer à la tenue de l'élection présidentielle du 29 juillet dans la région de Mopti. Au lendemain d'un sommet historique de leurs dirigeants, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé aujourd'hui à Asmara une déclaration formalisant leur rapprochement et mettant fin à 20 ans d'état de guerre. L'état de guerre qui existait entre les deux pays est arrivé à sa fin. Une nouvelle ère de paix et d'amitié s'ouvre, selon le texte. Par ailleurs, la compagnie Ethiopian Airlines a décidé de rétablir ses liaisons avec l'Érythrée dès la semaine prochaine. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Soudan du Sud, les rebelles ont rejeté ce lundi un plan de paix qui vise à rétablir le chef insurgé Riek Machar dans ses fonctions de vice-président. Ils estiment que cette mesure en soi n'entame en rien ce qu'ils qualifient de mainmise du président Salva Kiir sur le pouvoir. Jacques Aristide.
L'accord faisant de nouveau de Riek Machar le premier vice-président a été trouvé à Entebbe en Ouganda. Lors de pourparlers sous la médiation du président ougandais Yoweri Museveni, responsable de l'organisation rebelle de Machar, le SPLM-IO, a cependant indiqué ce lundi que ce pacte n'était pas acceptable. Pour Pouok Bot Balwang, porte-parole adjoint du groupe, les rebelles doivent nommer 2 des 4 vice-présidents comme envisagé par l'accord d'Entebbe et Salva Kiir doit lâcher davantage de pouvoir. Dans ces négociations, nous ne baisserons pas la garde juste pour le poste de premier vice-président. Nous nous concentrons davantage sur les problèmes structurels et institutionnels afin de limiter les pouvoirs du régime Kiir à la fois au sein de l'exécutif et du Parlement, a-t-il dit. On ignore s'il s'exprimait au nom de Riek Machar. L'accord d'Entebbe, s'il venait à être entériné par les rebelles, marquerait un progrès notable dans les efforts de médiation destinés à en finir avec la guerre civile qui oppose pour l'essentiel l'ethnie des Dinka de Salva Kiir aux Nuer dont fait partie Riek Machar, une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2013.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a démissionné au lendemain du départ du ministre chargé du Brexit David Davis. Des départs sur fond de désaccord sur la future relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne après le Brexit. Le président américain Donald Trump s'en est de nouveau pris ce lundi aux pays alliés, renouvelant son appel à une augmentation de leurs dépenses militaires. Ceci à la veille de son départ pour le sommet de l'OTAN. Les États-Unis dépensent bien plus que l'OTAN, plus pour l'OTAN que n'importe quel autre pays. Ce n'est pas juste ni acceptable, a tweeté Donald Trump qui quitte Washington demain pour se rendre au sommet de l'OTAN cette semaine à Bruxelles. En Thaïlande, les sauveteurs ont évacué 4 nouveaux jeunes footballeurs coincés dans une grotte inondée. Il ne reste que 4 enfants et leur entraîneur qui sont encore coincés. Claire Morin-Gibourg.
La Thaïlande tout entière retient son souffle. Le pays espère une issue heureuse pour les derniers enfants coincés et leur entraîneur de 25 ans. Cette jeune équipe de foot est restée bloquée depuis le 23 juin dans la grotte de Tuam Luang, dans le nord du pays. Le chef de la cellule de crise a promis en début d'après-midi de bonnes nouvelles dans quelques heures. Le chef de la junte au pouvoir, le général Prayut Chan-o-cha, est attendu sur place. La pluie de mousson menace d'inonder ce réseau souterrain complexe long d'une dizaine de kilomètres. C'est le principal défi pour les sauveteurs qui redoutent de nouvelles précipitations avant la sortie de tout le groupe. La situation est compliquée par le fait qu'une bonne partie des enfants ne savent pas nager et qu'aucun n'a jamais fait de plongée. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise est mort au début des tentatives de sauvetage, ce qui témoigne des dangers de l'opération.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le principal syndicat gabonais du secteur pétrolier a lancé ce lundi un mot d'ordre de grève de 15 jours à Total Gabon. C'est à la suite de l'échec de négociations sur les conditions salariales. Le groupe emploie quelques 300 personnes, dont 60 expatriés. En 2017, il avait réduit de ses activités de 350 millions de dollars au profit de la société franco-britannique Perenco, cinquième producteur d'or noir en Afrique subsaharienne. Le Gabon a atteint en 1997 18,5 millions de tonnes. Depuis, il produit moins de 12 millions de tonnes pompées chaque année. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a relancé un projet de méga barrage hydroélectrique sur le Zambèze pour 4,5 milliards de dollars. La construction de ce barrage d'une puissance de 1600 MW doit permettre de créer 6000 emplois. Le Zimbabwe produit 1200 MW d'électricité, mais doit importer les 200 MW supplémentaires de l'Afrique du Sud et du Mozambique. Le FMI a validé un prêt à la Tunisie de plus de 249 millions de dollars. Cela porte l'enveloppe du FMI à Tunis à plus d'un milliard de dollars. C'est dans le cadre du programme d'aide sur 4 ans signé en 2016. Les réformes visent à réduire les déséquilibres macroéconomiques, à assurer une protection sociale adéquate et à encourager la création d'emplois par le secteur privé, à réduire les déficits budgétaires et courants, à inverser l'accumulation de la dette et à accroître l'investissement et les dépenses sociales.
C'était la page écho d'Éric Manirakiza et on passe tout de suite au journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pino.
Bonsoir à tous. Veillée d'armes en Russie avant la première demi-finale demain entre la France et la Belgique. La France, championne du monde 98, a sur le papier plus d'expérience que la Belgique, qui n'a plus atteint les demi-finales d'une Coupe du Monde depuis 1986. Les deux équipes sont arrivées ce lundi à Saint-Pétersbourg pour ce match qui sent la poudre. Et à noter, côté français, lors de l'ultime séance des Bleus sur la pelouse du stade Krestovski, Kylian Mbappé était absent par précaution, tandis que N'Golo Kanté et Benjamin Pavard, déjà ménagés la veille, se sont contentés de trottiner en compagnie d'un kiné. Allez, on écoute Antoine Griezmann, l'attaquant français.
Là, on est à 90 minutes de jouer une finale. Donc voilà, on va tout faire pour passer et faire un gros match aussi. Ils sont en train de faire un bon parcours. Et ça va être à nous de les stopper et de bien travailler défensivement. Que ça soit bloc bas ou bloc haut, mais voilà, va falloir répondre présent.
Antoine Griezmann, l'attaquant de l'équipe de France. En face, les Diables Rouges sont en confiance après l'élimination du favori brésilien en quart de finale. Et cette première demi-finale France-Belgique a inspiré Jules Valentin-Gouy pour son coup de sifflet.
Les premiers de cordée sont la Belgique et la France dans un derby fratricide qui oppose logiquement les équipes les plus impressionnantes de cette fin de compétition, désormais en phase terminale. La Belgique aligne la meilleure attaque du tournoi. La France, elle, présente les garanties défensives les plus évidentes, ce qui constitue un atout fondamental dans les matchs serrés et équilibrés où il ne fait pas bon encaisser le premier but. Par ailleurs, lors de la dernière rencontre face à l'Uruguay, la sélection tricolore a encore élevé son niveau de jeu, faisant montre d'une maîtrise retrouvée, d'une sérénité et d'une patience qui caractérisent déjà les équipes qui veulent aller jusqu'au bout. C'est incontestable, la France, au regard de son tableau de chasse, a déjà revêtu le costume du favori de la dernière ligne droite. Et c'est là où le bas blesse, car la Coupe du Monde, au cours de sa longue histoire, a rarement souri aux favoris. La France devra donc se méfier d'une Belgique revancharde à souhait, sans aucune pression, écrite de talent offensif, mais qui a aussi démontré contre le Brésil, une équipe tactiquement proche du jeu français, ses capacités tactiques, son efficacité, avant de prouver en deuxième mi-temps qu'elle pouvait aussi gérer ses temps faibles. La clé de la rencontre se trouve donc, une fois de plus, dans le scénario du match. Alors patience, à bientôt.
Merci Jules, et à noter que la deuxième demi-finale aura lieu demain entre l'Angleterre et la Croatie. Enfin, sachez que Luis Enrique a été nommé nouveau sélectionneur de la Roja, l'équipe d'Espagne, qui avait été éliminée, souvenez-vous, par la Russie en huitième de finale. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur la compétition demain matin et 24 heures sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook. One life, live it up 'cause you don't get it right.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. L'Éthiopie et l'Érythrée ont décidé d'enterrer la hache de guerre après des années de tensions militaires et diplomatiques. Les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques, une décrispation qui pourrait avoir des retombées pour les deux pays. Pour analyse, Idriss Fall a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines au département d'État américain.
Oui, c'était le changement de premier ministre en Éthiopie. Monsieur Ahmed est venu, il a vu que c'était ridicule de ne pas parler avec l'Érythrée. Ils avaient une longue frontière, avaient des soldats sur la frontière qui coûtaient très cher, il y avait une guerre froide. L'Éthiopie n'utilisait pas les ports d'Érythrée, donc ils étaient obligés d'utiliser Djibouti, qui était très, très loin. Donc lui, M. Ahmed a dit, c'est ridicule de continuer comme ça. Il faut normaliser les relations. C'est gagnant-gagnant.
Qu'est-ce que l'Érythrée gagne dans tout ça?
D'abord, ils ne sont plus obligés d'avoir des milliers et des milliers de soldats sur la frontière. Ils peuvent utiliser ces hommes pour des autres choses, pour l'industrie, pour l'agriculture, etc. Deuxième, il n'y avait plus de commerce pendant 20 ans. Chaque côté perdait beaucoup d'argent. Maintenant, on peut recommencer le commerce. Et aussi, ils avaient des mauvaises relations avec les États-Unis à cause de ça. Les États-Unis ont besoin d'Érythrée parce qu'ils sont sur la mer Rouge, en face de Yémen et tout ça. Donc, c'est très important pour que l'Amérique normalise aussi avec l'Érythrée.
Et l'Éthiopie va gagner quoi?
L'Éthiopie, c'est la même chose. Ils peuvent retirer les soldats sur la frontière. Ils peuvent recommencer le commerce. Ils ont perdu beaucoup d'argent avec l'absence de commerce. Et aussi, ils peuvent travailler ensemble avec l'Érythrée contre les islamistes, contre Al-Shabaab en Somalie. Tous les deux sont très contre l'islam révolutionnaire, tout ça. Ils peuvent travailler ensemble.
Et la ville de Badme, qui était un contentieux réglé par les accords d'Alger, mais les soldats éthiopiens sont toujours présents là-bas, hein, même si l'Éthiopie envisage rendre Badme à Asmara.
Oui, l'Éthiopie a accepté l'arbitrage qui était fait sur la frontière en Algérie. Et c'est-à-dire Badme appartient à l'Érythrée. Donc, ils ont dit, nous acceptons maintenant la solution de l'arbitrage. Donc, ils seront obligés dans quelques jours de rendre Badme à l'Érythrée.
Est-ce que l'Éthiopie aussi ne va pas gagner un peu avec son grand barrage sur le Nil?
Oui, mais ça n'a pas d'impact sur l'Érythrée. Mais ils peuvent travailler ensemble pour coopérer avec l'Égypte. C'est un grand danger pour l'Égypte s'ils perdent de l'eau, parce que l'eau du Nil, c'est la vie pour l'Égypte. Donc, il faut trouver des solutions et l'Érythrée a des bonnes idées là-dessus.
C'était Herman Cohen, joint ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux devant aboutir à la décrispation de la crise sociale sont bloquées. Les deux parties durcissent leur position et les perdants dans ce bras de fer sont les élèves qui doivent passer le baccalauréat édition 2018. Pour casser la grève, le gouvernement menace d'appliquer une loi portant sur la restriction du droit de grève au Tchad. Réaction des différents protagonistes dans ce reportage d'André Kolmajingar, le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Après plusieurs tentatives de négociation avec les responsables de la plateforme syndicale revendicative sans compromis, le gouvernement ferme la porte au dialogue. Il accuse en même temps ses responsables d'être manipulés par les hommes politiques sans donner plus de détails. Doulé nous dit Alex Naimbaï, le porte-parole du gouvernement.
Cette manière d'agir, peu orthodoxe, diligentée par certains responsables syndicaux bien connus et instrumentalisés, ne vise qu'à saper le bon fonctionnement de l'État et à remettre en cause la trêve sociale issue de l'accord du 14 mars 2018.
Réplique du porte-parole de la plateforme syndicale revendicative Barka Michel. Pour lui, c'est le contraire.
Le blocage des négociations était provoqué par le gouvernement lui-même. Les membres du gouvernement sont manipulés par des hommes politiques de la majorité présidentielle qui empêchent au ministre de discuter avec nous. C'est ceux-là qui font les jeux, il faut le dire.
La persistance de cette grève dans le secteur public est inadmissible, estime le gouvernement, qui menace d'appliquer la loi 32 réglementant le droit de grève au Tchad, laquelle loi stipule en son article 15 que les journaux prestés pour cause de grève ne donnent pas lieu à une rémunération. Les salaires des journaux non prestés sont à la charge des syndicats initiateurs du mouvement de grève. Fin de citation. La réaction du porte-parole de la plateforme syndicale revendicative Barka Michel ne se fait pas attendre.
Cette loi est en relecture et nous avons envoyé une requête au Bureau international du travail qui demande au gouvernement de revoir les parties querellées. Pour nous, le gouvernement n'a pas de proposition. Il faut menacer. C'est ça ce que ça veut dire.
C'est dans cette condition que le gouvernement continue d'organiser les examens et concours de fin d'année. Il a réussi à diviser le syndicat des anciens du Tchad. Coup de gueule de quelques enseignants qui résistent à cette manipulation.
Nous sommes parents, mais il faut que les programmes soient quand même finis pour que nos enfants aient dignement leur diplôme.
Les camarades syndiqués qui sont sur le terrain, je dirais que c'était des traîtres.
C'est anormal ce que les autres ont fait. On dit solidarité, mais il n'y a pas la solidarité chez nous.
Rappelons que lors de la première grève de la plateforme syndicale en janvier dernier, le gouvernement avait instauré un système de listes journalières pour contraindre les grévistes à aller au travail. Chose que le cinéaste Haroun Mohamed Saleh, alors ministre de la Culture, avait refusé et cela aurait précipité son départ du gouvernement. Reste à savoir si les ministres de la 4e République qui ont tous juré au nom d'Allah ou Dieu le Tout-Puissant auront la conscience tranquille pour exiger cette liste à leurs concitoyens qui ne revendiquent que leurs droits. André Kodumadingar Ndiamena pour VO Afrique.
Washington, VO Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, des mouvements d'humeur à répétition sont enregistrés sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations de football que doit abriter le pays en 2019. Le plus récent a concerné certains ouvriers des chantiers de la ville de Garoua dans le nord du Cameroun. Principale revendication, des arriérés de salaire qui varient, selon les grévistes, entre 4 et 6 mois. C'est le troisième mouvement d'humeur enregistré depuis le début de l'année sur l'ensemble des chantiers de la CAN 2019. Reportage Emmanuel Jultap depuis Yaoundé.
Deux jours de colère de près de 800 ouvriers engagés sur les chantiers de la CAN 2019 par la société Prime Potomac à Garoua, au nord du Cameroun.
Je suis à 5 mois sans salaire.
Chaque jour qu'on nous promet que tel jour on va faire, on arrive, on ne donne rien.
Quelqu'un travaille 6 mois, on ne lui paye même pas 5 francs. Je vis comment?
Qu'on nous régularise et non, on ne travaille même plus. On rentre à Yaoundé, on veut rentrer chez nous.
Prime Potomac, la société qui les emploie, doit livrer 4 terrains d'entraînement, réhabiliter un hôtel et construire un autre de 4 étoiles d'une capacité de 130 chambres. La société, dit-on, ne recevrait plus les paiements de l'État, ses comptes étant bloqués, d'où le malaise que vivent les ouvriers grévistes. Edibi Nkolo, directeur général de la société Prime Potomac.
Nous recevons de l'argent de l'État, mais la procédure, c'est de déposer les décomptes et que ces décomptes soient signés à temps et conduits jusqu'au paiement. On avait un effectif de 4500 ouvriers, compte tenu du fait qu'on a acquis du matériel qui nous permet d'avancer les travaux au niveau le plus élevé. On était obligé de libérer 3000, mais ils étaient tous payés au mois de mars.
En fin juin dernier, certains ouvriers du chantier du stade, qui devra abriter le match d'ouverture de la CAN à Olembe, en banlieue de Yaoundé, ont observé deux jours de cessation d'activité. Situation similaire en début d'année 2018 sur le chantier du stade de Japoma. Célestin Bama, de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun, dénonce les contrats iniques ficelés sous le dos des ouvriers camerounais.
Il y a un melting pot. Même le ministère du Travail vous dit haut et fort qu'il n'arrive pas à avoir la maîtrise de cette sous-traitance. Vous avez un employeur utilisateur et il y a un autre qui joue l'écran et qui vous dit, je ne peux pas prendre sur moi de payer un franc à ce travailleur parce que je n'ai pas traité ça avec l'autre.
La troisième mission d'inspection de la CAF est attendue au Cameroun dans le prochain jour. Annoncé également le cabinet d'audit Roger Berger qui viendra jauger les infrastructures du Cameroun pour la CAN. La ville de Garoua est l'une des étapes de cette visite d'inspection. Jean Abaté, gouverneur de la région du Nord, président du comité local de supervision des infrastructures.
Le travail se déroule sur l'ensemble des sites de Garoua en toute sérénité. Les différents chantiers évoluent. Comme toute entreprise, il peut y avoir un certain nombre de petites difficultés.
Pour se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de la CAN, le premier ministre du Cameroun effectue une visite des différents chantiers cette semaine. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Sims Lumami, à la console Bill Barber, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Rien n'est plus important pour l'avenir de l'Afrique subsaharienne qu'une source d'énergie abordable et fiable, sans laquelle aucune entreprise ne peut réussir. L'énergie électrique est un ingrédient crucial de notre réponse à l'un des plus importants défis de développement de notre temps, le déplacement des familles et de communautés à travers le monde, a déclaré l'administrateur de l'USAID, Mark Green, au 4e sommet annuel Powering Africa. La connectivité permet aux déplacés de rester en contact avec leurs familles et amis, de remettre de l'ordre dans leur vie avant de chercher à s'installer dans un nouvel endroit. Toutefois, en Afrique subsaharienne, des millions de déplacés vivent pour une durée indéterminée dans des camps sans électricité. Et c'est ici que Power Africa intervient. En janvier, l'USAID a annoncé un nouveau partenariat entre Power Africa et Mastercard qui vise à connecter des millions de déplacés d'Afrique au réseau électrique et leur permettre d'accéder aux outils digitaux et à l'Internet. À travers Power Africa, nous avons aidé à mobiliser plus de 20 partenaires allant de Mastercard à Mercy Corp, en passant par Energy Peace Partners. Ensemble, nous œuvrons pour électrifier et connecter 5 camps des réfugiés, 3 en Ouganda et 2 au Kenya, a expliqué l'administrateur Green de l'USAID. Power Africa est réellement un partenariat réussi entre le gouvernement et le secteur privé. Power Africa marche, a dit l'administrateur Green. L'initiative a aidé 58 millions de personnes à accéder à l'électricité grâce au mécanisme du marché et de l'entrepreneuriat. Elle a impliqué plus de 140 partenaires du secteur privé et mis à contribution les autorités de régulation pour faciliter des transactions, se chiffrant à 14,5 milliards de dollars. Côté gouvernemental, l'USAID fournit l'assistance technique et des garanties de prêts pour faciliter les investissements. Le Millennium Challenge Corporation prête main forte aux réformes du secteur énergétique. Le département d'État œuvre, de son côté, au renforcement de la gouvernance dans le domaine de l'énergie, tandis que l'Agence pour les investissements privés à l'étranger finance les infrastructures énergétiques à travers le continent. Et cela devrait être le ton de l'Afrique, a déclaré l'administrateur Green de l'USAID. Le continent africain dispose d'un potentiel énorme, ses ressources, ses terres agricoles et ses pâturages, mais surtout l'impressionnant esprit de résilience et de joie qui habite un si grand nombre des habitants. Comme l'a dit le président Trump l'automne dernier en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, en ce qui concerne l'Afrique, les perspectives sont brillantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.